إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فما زلنا نقرأ كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب الخيار وغيره، باب الخيار وغيره. وقال المؤلف رحمه الله: إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس، منها خيار المجلس. طيب، donc nous sommes toujours dans le chapitre concernant al-khiyar, c'est-à-dire la possibilité de retourner la marchandise ou de changer d'avis, yani, et du coup de faire annuler la transaction. Hein? On pourrait appeler ça aussi la rétractation, al-khiyar. طيب. Donc, à la base, lorsque le contrat a été effectué, taïeb, eh bien la vente est effectuée et du coup chacun devra donc honorer son contrat de manière obligatoire, excepté dans certains cas, excepté lorsque il y a certaines choses qui vont yani, permettre et autoriser à la personne de pouvoir yani, revenir sur sa décision ou de se rétracter. La première cause, on avait dit khiyaru al-majlis. Khiyaru al-majlis, la rétractation qui peut être faite donc lors de al-majlis, lors de l'assise, c'est-à-dire l'endroit où le contrat est fait avant que les deux contractants ne se séparent. Donc al-majlis, à la base, c'est l'endroit où on s'assoit. Donc bien sûr, c'est pas une condition que les contractants soient assis. On a dit s'ils sont debout ou même allongés, yani, alhamdoulilah, ça fait partie également du contexte de al-majlis ici du contrat. طيب فال قلنا ان البيع يلزم باحد امرين، اولا بتفرق من المجلس بالابدان. Et donc du coup la vente devient définitive lorsque soit premièrement les deux contractants se séparent physiquement, d'accord, ils se séparent physiquement. طيب ou soit اذا اسقط الخيار ou اسقطهم احدهما. Et deuxième possibilité, lorsque les deux ou l'un des deux abandonne son droit de rétractation. Ça c'est la première possibilité. السبب الثاني خيار الشرط. خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. Deuxième possibilité de rétractation, lorsque il a été émis comme condition pour les deux contractants ou l'un des deux contractants une période déterminée hein, de réflexion et de possibilité de rétractation. Une période de possibilité de rétractation. Jayed, Naam. On avait donné hein, des exemples. مثلا لو اشترط سلعة على أن له الخيار ثلاثة أيام ووافق البائع فهنا للمشتري الخيار في إمضاء البيع أو فسخه خلال مدة الخيار وليس للبائع خيار هنا hein? comme lorsque l'acheteur achète une marchandise طيب. Et à condition يعني, qu'il ait 3 jours par exemple 3 jours durant lesquels il aura le droit de retourner la marchandise et du coup d'annuler la vente طيب. Et bien sûr le vendeur lui il est d'accord et se base donc sur ce contrat là et bien dans ce cas là durant les 3 jours s'il ne ramène pas la marchandise et bien la vente sera conclue s'il la ramène avant les 3 jours et bien alhamdoulillah il aura le droit donc d'annuler la transaction voyez ومثله لو كان مشترط الخيار البائع أو كلاهما نعم et bien sûr le vendeur lui aussi il peut émettre ce genre de conditions نعم طيب والسبب الثالث منها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة بنجش أو تلقي جلب أو غيرهما نعم إذن الغبن ما هو الغبن يطلق في اللغة على نقص والخداع والمراد أن البائع أو المشتري خدع في هذا البيع فباع بنقص أو بزيادة عن ثمن السلعة المستحق وليس كل غبن فيه خيار بل الغبن الذي يخرج عن العادة ويراه غالب الناس غبنا سواء أكان لحق البائع أو لحق المشتري وقد ذكر المؤلف صورتين مما يحصل فيهما الغبن وهما النجش والغبن يكون فيه على المشتري وتلقي الركبان كذلك والغبن يكون فيه على البائع طيب ويذكر الفقهاء صورة ثالثة للغبن وهو ما يسمى المسترسل وهو من يجهل قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة من بائع أو مشتر فله الخيار إذا غبن ودليل خيار الغبن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تلق الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار أخرجه مسلم نعم طيب Donc la troisième cause qui peut faire que l'on retourne, qu'on ait le droit d'annuler la transaction, de revenir sur sa décision, la trahison ou la tromperie. D'ailleurs, la diminution ou la tromperie, bien sûr, qui n'est pas connue comme étant quelque chose de normal. Que ce soit, dit le Cheikh, rahimahullah, par ce qu'on appelle un najsh, on avait parlé déjà d'un najsh, ou le fait de talaqi jalab, on avait parlé également de ça, ou autre que ces deux. Donc, al-ghabnu, le terme al-ghabnu, désigne dans la langue arabe la diminution et la trahison, la tromperie. Donc, ce qui est visé ici par al-ghabn, eh bien, c'est le fait que ou le vendeur ou l'acheteur soit trompé dans la transaction. Donc le vendeur a vendu une marchandise, mais à un prix trop bas. Il a été trompé. Voyez ? Ou l'acheteur l'a acheté à un prix trop haut. Il a été trompé. Hein, par rapport au prix que la marchandise mérite de valoir. Mais, attention, ce n'est pas toute diminution qui peut faire qu'on puisse se rétracter et retourner la marchandise, par exemple, ou d'annuler le contrat. Mais comme on a dit, c'est al-rabnu, la diminution ou la tromperie, on va dire, qui sort de l'ordinaire. qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment quelque chose de anormal. Voyez, et que la majorité, la plupart des gens voient cela comme étant une tromperie et une trahison. Que cette chose est atteint le vendeur ou l'acheteur, peu importe. Voyez, donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné deux exemples, deux modèles dans lesquels se produit justement ce rabn, cette diminution ou cette tromperie. La première, un najj. Un najj, vous le rappelez, c'est le fait qu'une personne fait semblant d'être un acheteur, fait semblant de vouloir acheter une marchandise et fait augmenter le prix exprès. En arabe, on dit un najj. Donc il faut augmenter le prix exprès, alors qu'il ne veut pas acheter la marchandise, mais seulement soit pour profiter aux vendeurs, ou soit pour nuire aux acheteurs. Vous voyez, donc ici, la tromperie, el khida'u, concerne seulement l'acheteur. Elle concerne seulement l'acheteur. Et le deuxième cas, talaqi al-rukban, on avait parlé de ça déjà, c'est le fait d'aller intercepter les vendeurs qui se rendent au marché avant qu'ils atteignent le marché et avant donc qu'ils ne connaissent le prix du marché, afin de leur acheter la marchandise à un prix beaucoup plus bas que celui du marché. Là ici il y a une forme de tromperie également qui nuit au vendeur et non à l'acheteur. Puis les juristes consultes ont mentionné un troisième modèle de rabn qu'ils appellent al-mustarsil. C'est quoi al-mustarsil? Il dit c'est le fait que la personne ignore le prix de la marchandise du marché. Voyez? Et la personne ne maîtrise pas la négociation. Ni là, le marchandage. Qu'elle soit le vendeur ou qu'elle soit l'acheteur. D'accord? Donc dans ce cas-là, s'il s'est fait tromper, eh bien il aura le droit de rendre la marchandise et d'annuler, ou pour le vendeur, d'annuler la vente. La preuve de cela, le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La talaqul jalab. C'est-à-dire, n'allez pas intercepter la marchandise avant qu'ils atteignent ou avant que les vendeurs n'atteignent le marché. Voyez. Puis il dit, فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ. Car s'il les intercepte et qu'il achète à un prix beaucoup plus bas que le marché et que, par la suite, les vendeurs, lorsqu'ils arrivent au marché, ils s'aperçoivent que, en vérité, ils se sont fait avoir et qu'ils ont pris, ils ont vendu un prix beaucoup plus bas que celui du marché, dans ce cas-là, les vendeurs auront la possibilité de réclamer leurs marchandises pour pouvoir les vendre au prix normal du marché. Donc le hadith, on l'a vu, il était rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. D'ailleurs. Wa minha khiyaru tadlis bi an yudallis al-ba'i'u 'ala al-mushtari ma yazidu bihi al-thaman. كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام فالتدليس هو إظهار السلعة في مظهر حسن لإخفاء عيبها ومن أمثلته تلميع سيارة ودهنها لإخفاء ما فيها من خدش والحديث جاء في إثبات الخيار في المسرات الله وتصرية هي حبس اللبن في ضرع البهيمة ويقاس عليها إخفاء كل عيب ينقص الثمن أو يظهر السلعة بما لا تتصف به حقيقة مما يزيد في ثمنها والتدليس حرام لأنه من الغش وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. طيب. Quatrième cause qui fait que il y a un khiyar, il y a un khiyar, une possibilité de rétractation. Jaïd. Donc c'est quoi cette quatrième cause? Il dit le Cheikh, l'auteur, rahimahullah ta'ala, at-tadlis, le camouflage, la dissimulation. Le fait que le vendeur dissimule et cache à l'acheteur une chose afin de que le prix soit plus élevé. Afin que le prix soit plus élevé. Parce que si l'acheteur s'aperçoit de cette chose-là qui a été cachée, le prix serait plus bas. Hein? Donc, exemple, comme ce qu'on appelle tasriyat al-laban dans la mamelle des bêtes. Hein? Le fait de garder exprès, de laisser le lait exprès dans la mamelle de la bête pour faire croire que la bête produit beaucoup de lait. Alors que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, le tadlis, c'est quoi le tadlis? C'est le fait de montrer l'apparence d'une marchandise, d'une belle apparence, mais dans le but de cacher un défaut, ou un de ses défauts. Donc, parmi les exemples, le fait de cirer, laver une voiture, de la peindre, de mettre des couches de peinture dessus, afin de cacher les rayures qu'il y a sur la voiture. Afin de cacher, quoi? Les rayures sur la voiture. Taïeb? Donc ça, c'est pas permis. Et bien là, il y a juz. Parce que tu sais que si tu dis à la personne qu'il y a des rayures, tu sais que le prix va baisser. Et toi, pour pas que le prix baisse, tu vas penser, tu vas peindre, mettre des couches et des couches de peinture. Parmi les exemples également, donc le tasriya, donc le hadith, il est venu, lui, par rapport à al-musarrat. Al-musarrat, c'est la bête. C'est la bête, donc imaginons la chamelle, dont le propriétaire, le vendeur, n'a pas sorti son lait pendant 2-3 jours, exprès, pour que justement l'acheteur croit qu'elle donne et produit beaucoup de lait. Lorsqu'il va la voir, il voit que ses mamelles sont remplies, il croit que c'est une bête qui produit beaucoup de lait, mashallah. D'accord? Donc cette façon de faire, on l'appelle tasriya. D'accord? Le fait de conserver, de laisser le lait dans la mamelle de la bête. Hein? Donc on fait l'analogie par rapport à ce hadith. Donc, le fait de cacher tout défaut qui ferait que le prix diminue. Le prix de la marchandise diminue. Ou le fait de montrer la marchandise sous une belle apparence. Taïeb. Alors qu'en vérité, ce n'est pas sa réelle apparence. Taïeb. Et ceci afin de faire monter son prix. Donc, tadlis ou haram, le camouflage, la dissimulation, c'est interdit. Parce que cela fait partie de la trahison. Et comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Jayid? Naam. Faqala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, la tusarru al-ibila wal-ghanam. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه دونك دي النبي صلى الله عليه وسلم Naam, la tusarru, c'est-à-dire ne faites pas exprès de laisser le lait dans la mamelle pendant un temps, que ce soit des chamelles, hein, ou des chèvres, ou des brebis, parce que celui qui les achète après que vous ayez fait cela, eh bien, il aura la possibilité entre deux choses. Après qu'il ait donc sorti le lait de la bête. Donc forcément, lui, il va se rendre compte de la supercherie une fois qu'il aura pris la bête, une fois, donc il verra qu'il y a beaucoup de lait. Et puis la deuxième fois, il va s'apercevoir qu'en vérité, il y a un nez, la bête ne donne pas autant de lait. Donc au moment où il va s'en apercevoir, il aura le choix, soit il garde malgré ça la bête, et s'il le veut, il la retourne. Et lorsqu'il la retourne, il donne aussi à l'acheteur un sa de date. Hein, l'équivalent de un sa de date, hein, par rapport au lait qu'il a, qui était présent dans la mamelle de la bête lors du contrat de vente. Parce que ce lait qui était présent lors du contrat de vente dans la bête, il appartient au vendeur. Il appartient au vendeur. D'ailleurs, donc lorsqu'il va rendre la bête, il va rendre la bête et en même temps il va lui donner un sa de date par rapport à ce lait qu'il avait extrait. D'ailleurs, et dans une version, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَوَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ. Et donc il a ce qu'on appelle al-khiyar, donc la possibilité de se rétracter durant 3 jours, le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Na'am. Al-murad an al-mushtari yukhayyiru fi aw yukhayyiru fi imdha' al-bay'i aw raddihi li muddati 3 ayyam. فإذا مضت الثلاث ولم يردها وجب عليه إمضاء البيع ولا يجوز له الرد بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الخيار بثلاثة أيام فلا خيار بعدها. Donc les 3 jours, c'est-à-dire que l'acheteur, il a le choix entre donc confirmer et valider la vente, soit de retourner la bête sous 3 jours. D'accord? Mais si les 3 jours se sont écoulés et qui n'a pas rendu la bête, eh bien, dans ce cas-là, la vente devient effective et obligatoire, et il ne lui est plus permis de la retourner, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ici délimité la période de 3 jours. Donc, il n'y aura plus de khiyar après cela. Allahu a'lam. Taïeb ?
Naam.
As-sababu al-khamis. Wa idha ashtara ma'iban. لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه هذا هو خيار العيب والعيب هو الصفة التي تنقص قيمة المبيع عادة ويحرم على البائع كتم العيب لحديث عقبة ابن عامر مرفوعا المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. Donc, cinquième cause de khiyar, lorsque l'acheteur a acheté une marchandise qui est défectueuse, qui a un défaut, et il ne connaissait pas son défaut. Vous voyez? Dans ce cas-là, bien sûr, il a le choix entre retourner la marchandise ou la garder. S'il veut la garder, il la garde. S'il veut la retourner, il la retourne. Hein? Donc ça, c'est ce qu'on appelle khiyaru al-aib, le khiyar du défaut. Donc le défaut, c'est quoi? C'est une caractéristique qui fait que la valeur, le prix de la marchandise diminue. Diminue. Caractéristique qui diminue la valeur de la marchandise de manière normale. C'est-à-dire quelque chose qui est normal. Non. Dans ce cas, lorsque la marchandise, normalement, ce défaut-là diminue sa valeur, le vendeur n'a pas le droit de cacher ce défaut. Il n'a pas le droit de cacher ce défaut-là qui fait que la marchandise verra sa valeur diminuer. Et cela en vertu d'un hadith d'Uqba ibn Amir.
Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est le frère du musulman. Et il ne lui est pas permis, il n'est pas permis à un musulman qui a vendu quelque chose à son frère et qui comporte un défaut sans qu'il ne lui en ait informé. Donc il est interdit à un musulman de vendre quelque chose à une autre personne, à son frère, et cette chose elle a un défaut sans qu'il en ait informé la personne de ce défaut-là. Donc le hadith rapporté par Ibn Majah ainsi que Al-Hakim, et il a dit il est authentique selon les conditions de Al-Shaykhayn, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. ودليل خيار العيب حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك وقال الترمذي حسن صحيح ومعنى قوله الخراج بالضمان الباء متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه طيب فالمراد للخراج ما يحصل من غلة العين كالعبد والدابة ونحوهما ومثاله أن يشتري جملا أو سيارة أو آلة فيستغلها زمانا ثم يجد فيها عيبا قديما لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد السلعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن السلعة لو تلفت في يده مدة الاستغلال لكانت في ضمانه ولم يكن على البائع شيء. Donc la preuve du khiyar du défaut, le hadith de Aïcha radiallahu anha qui a dit un homme a vendu un esclave, un homme a vendu un esclave, et l'esclave est resté auprès de l'acheteur, yani, l'esclave est resté auprès de l'acheteur pendant un temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Puis par la suite, l'acheteur, donc dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Un homme a acheté un esclave. Et cet esclave-là, il est resté auprès de lui pendant un temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Jayid. Puis il voit que cet esclave-là a un défaut. Donc il porte plainte, entre guillemets, au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au vendeur. Et puis il a rendu l'esclave au vendeur. Le vendeur, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya Rasulallah, au messager d'Allah, il a profité de cet esclave, il a utilisé, il a travaillé pour lui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Kharaju bid-Daman. C'est-à-dire que les profits de cet esclave-là reviennent de droit à celui qui l'avait acheté. Bid-Daman. Pourquoi bid-Daman? C'est quoi Daman? Eh bien, c'est les frais, les dépenses qui ont été faites pour entretenir cet esclave. Pour le nourrir, pour l'habiller, pour le loger, etc., etc. Donc, pendant la période où il possédait cet esclave-là, il l'a entretenu. Donc, ce qui fait que les profits qu'il a reçus de cet esclave-là, de son travail, lui reviennent de droit pendant cette période-là. Donc, il ne doit rien au vendeur par rapport à ça. Ça, c'est le sens de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Al-Kharaju bid-Daman ». الخراج بالضمان طيب المهم الحديث تتلوغ par rapport à خيار التدليس وكاموفلاج يجي البروفيت صلى الله عليه وسلم ne faites pas التصريه c'est-à-dire ne retenez pas le lait exprès chez les chameaux et chez les moutons يعني et les chèvres car celui qui l'achète فمنبتاعها celui qui l'achète il aura le choix entre deux choses après qu'il ait sorti le lait de la bête soit il la garde soit il la rend طيب avec un sa' de dattes et là donc c'est khiyar al-aib celui qui achète une marchandise sur laquelle il y a un défaut sans qu'il ne l'ait su au préalable d'accord sans qu'il ne l'ait su au préalable non. Donc le kharaj, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui représente un bénéfice, un profit pour la personne, pour l'acheteur, hein, que ce soit ici donc l'esclave ou une bête ou une terre ou autre. D'accord? Exemple, elle achète un chameau ou une voiture ou un outil et elle va l'utiliser. Donc elle a acheté la voiture, elle a utilisé la voiture durant une semaine, mathalan, durant une semaine. Puis au bout d'une semaine, elle voit qu'elle a des défauts. Des défauts qui étaient présents avant qu'il ne l'ait acheté et sans que le vendeur ne lui en ait informé ou sans que le vendeur ne l'ait su. Donc dans ce cas-là, l'acheteur peut retourner la voiture et récupérer son argent. Récupérer son argent. Et en plus, il ne devra rien par rapport à l'utilisation qu'il a faite de la voiture durant cette semaine. Pourquoi ? Parce que même si il a usé la voiture durant une semaine, certes, pendant ce temps-là, mais malgré ça, c'était un temps où la voiture était sous ses dépenses et sous son entretien. Donc c'est lui qui a entretenu la voiture durant cette période de temps durant laquelle il a utilisé. D'accord ? Et le vendeur, lui, il n'a rien dépensé pour la voiture durant ce temps-là. Donc, cela fait que, même s'il rend la voiture, après qu'il s'est rendu compte de ce défaut-là, il ne devra rien au vendeur et le vendeur devra donc récupérer sa voiture et lui rendre son bien, son argent. Taïeb. Wa hakada. Na. ثم يقول المؤلف رحمه الله فإن تعذر رده تعين أرشه. طيب. هذا يعني للمشتري الذي يجهل العيب الخيار بين رد المبيع وأخذه ما دفع وبين أن يمسكه ويأخذ الأرش والأرش هو الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب فلو كان المبيع سيارة معيبة فتقدر قيمتها في السوق بدون العيب ثم تقدر قيمتها معيبة والفرق بين القيمتين هو الأرش فإن تعذر رده كما لو تلفت السلعة أو عتق العبد أو أوقف الأرض ونحو ذلك فمع هذه الأمور يتعذر رد المبيع وهنا يتعين الأرش. Si là on reste dans la même cause ici, la cinquième toujours, il dit donc on avait dit celui qui achète une marchandise défectueuse ou ayant un défaut sans qu'il ne l'ait su, il peut soit garder la marchandise soit retourner la marchandise. Ça y est. Ici, cela ne lui est pas possible. C'est-à-dire, si il ne lui est pas possible, il lui est impossible de retourner la marchandise, dans ce cas-là, l'arsh devient nécessaire. C'est quoi l'arsh? On va le voir, inshallah ta'ala. Donc, l'acheteur qui ignorait le défaut ou la défectuosité de la marchandise a le choix entre retourner la marchandise ou et de récupérer donc son bien, son argent. Ou alors, il peut également la garder, mais tout en réclamant ce qu'on appelle l'arsh. C'est quoi l'arsh? C'est la différence entre le prix de la marchandise sans défaut et le prix de la marchandise avec le défaut. Il peut réclamer la différence. Ça y est. C'est-à-dire, lorsque la marchandise, la voiture par exemple, défectueuse, on va donc estimer sa valeur, celle du marché, sans le défaut. Puis on va estimer sa valeur avec le défaut. Et donc la différence entre les deux prix, entre les deux valeurs, c'est ce qu'on appelle el-arshu. El-arshu. Donc s'il lui est impossible de rendre la marchandise, par exemple si la marchandise elle a été détériorée, ou si, si on revient à l'exemple de l'esclave, l'esclave a été affranchi, alhamdulillah, ou s'il a acheté la terre, mais qu'après, avant qu'il s'est rendu compte du défaut, eh bien il avait déjà donné la terre pour les musulmans, et pour que les musulmans puissent en profiter en tant que waqf, en tant que propriété pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Il y a autre que cela qui fait que retourner la marchandise sera impossible. Eh bien, dans ce cas-là, l'arshu devient nécessaire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, donc vu qu'il lui est impossible de rendre la marchandise, il pourra réclamer ماذا l'arsh. C'est quoi l'arsh? C'est la différence de prix entre la valeur de la marchandise sans défaut et sa valeur avec le défaut. طيب وهكذا نعم هذه المسألة كما قال العلماء إذا ثبت العيب وتعذر رد السلعة مثل أن تموت الشاة المريضة أو يأكل دقيق البر المخلوط بالشعير فيتعذر عليه رد الشاة ويتعذر رد البر المخلوط بالشعير وفي هذه الحالة يتعين الأرش وهو الفرق المالي بين قيمة الصحة والعيب فلو كانت قيمة الشاة وهي صحيحة 500 ريال وقيمتها مريضة 300 ريال فالأرش 200 ريال يردها البائع على المشتري وإذا كانت قيمة البر خالصا 100 ريال وقيمته مخلوطا 70 ريالا فالأرش 30 ريالا يردها البائع على المشتري وهكذا نعم donc on finit sur ça inshallah ta'ala. Cette masala concerne le fait que il y a un défaut qui n'était pas connu de l'acheteur et il lui est impossible de retourner la marchandise, comme par exemple le fait qu'il a acheté un mouton et yani, après qu'il se soit aperçu du défaut, le mouton est mort ou est tombé malade et il est mort. Ou alors il a acheté du blé, mais ce blé il était mélangé avec de l'orge sans qu'il ne l'ait su, et il a mangé, donc il ne peut plus le rendre ni l'agneau ni le blé. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il va réclamer la différence, c'est-à-dire el arshu, entre le prix le prix d'un mouton en bonne santé. Par exemple, le prix d'un mouton en bonne santé, c'est dit ici 500 riyals, d'accord, 500 riyals, et le prix d'un mouton malade, c'est 300 riyals. D'ailleurs, donc ici l'arshu, c'est quoi l'arshu? C'est 200 riyals que il va réclamer au vendeur, et le vendeur lui va lui verser ces 200 riyals de différence. Ou alors le prix de blé yani pur, c'est 100 riyals, et le prix d'un blé qui est mélangé avec de l'orge, c'est 70 riyals. Donc l'arshu sera de 30 riyals. La différence sera de 30 riyals que le vendeur donc devra verser à l'acheteur, wahakada, et ainsi de suite. Voyez. فالحمد لله قد بهذا ينتهي هذا الدرس فالعلم عند الله جل وعلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.